Ai-je des idées? J'en doute. Je ne les aime pas. Notre rôle est plus humble qu'on ne l'imagine. Il est d'ordre moral.
Jean Cocteau.
Écrire, en ce qui concerne le poète, c'est changer de la nuit en lumière. C'est, en quelque sorte, mettre de la nuit en plein jour.
Ça peut pas faire de mal.
Rien n'est plus complexe ni plus mystérieux que ce travail. Il exige la soumission et le contrôle, un équilibre entre nos forces avouées et nos forces inavouables, si profondes en notre personne qu'elles nous surprennent autant qu'elles peuvent surprendre les autres.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ce soir-là, c'était la neige. Elle tombait depuis la veille sur Paris et plantait un autre décor sur la cité Montier, quartier général des collégiens de Condorcet. Dès 4h10, l'affaire était engagée de telle sorte qu'il devenait hasardeux de dépasser le porche. Sous ce porche se massaient les réserves, grossies de nouveaux combattants qui arrivaient seuls ou deux par deux. La neige volait, s'écrasait sur les pèlerines, étoilait les murs. De place en place, on voyait le détail d'une figure rouge à la bouche ouverte, une main qui désignait un but. Un élève à la figure pâle, les yeux tristes, se dirigea vers la bataille de neige et se fraya une route à travers les projectiles. Il cherchait d'Argelos. Il l'aimait. Cet amour le ravageait d'autant plus qu'il précédait la connaissance de l'amour. C'était un mal vague, intense, contre lequel il n'existe aucun remède. Un désir chaste, sans sexe et sans but. D'Argelos était le coq du collège. Il goûtait ceux qui le bravaient ou le secondaient. Or, chaque fois que l'élève pâle se trouvait en face des cheveux tordus, des genoux blessés, de la veste aux poches intrigantes, il perdait la tête. La bataille lui donnait du courage. Il courait, il rejoindrait D'Argelos. Il se battrait, le défendrait, lui prouverait de quoi il était capable. Une main désigne l'élève pâle qui titube. Il ouvre la bouche. D'Arge... Aussitôt, la boule de neige lui frappe la bouche, y pénètre, paralyse les dents. Il a juste le temps d'apercevoir un rire, et à côté du rire, au milieu de son état-major, D'Argelos qui se dresse, les joues en feu, la chevelure en désordre, avec un geste immense. Un coup le frappe en pleine poitrine, un coup sombre, un coup de poing de marbre, un coup de poing de statue, sa tête se vide. Il devine D'Argelos sur une espèce d'estrade, le bras retombé, stupide, dans un éclairage surnaturel. Cette scène juvénile ouvre l'un des romans les plus remarquables de Jean Cocteau, « Les enfants terribles », paru en 1929 chez Grasset. Né 40 ans plus tôt, en 1889, Cocteau se révèle bientôt un génial touche-à-tout. Poète avant tout, dira-t-il, mais un poète qui se consacre à tous les arts. Littérature, théâtre, cinéma, art plastique. Les enfants terribles voient le jour lors d'une période douloureuse. Bouleversé par la mort brutale de son jeune ami Raymond Radiguet, l'auteur du roman Le Diable au corps, Cocteau a trouvé refuge dans l'opium. C'est lors d'un séjour en clinique qu'il imagine les personnages de Paul et Elisabeth, mélangeant souvenirs et fantasmes. L'écriture est lapidaire, 17 jours seulement pour un livre singulier et vénéneux. L'intrigue est simple, en apparence. Tombé malade suite au coup porté par l'envoûtant D'Argelos, le jeune Paul est contraint de garder le lit. La chambre qu'il partage avec Elisabeth, sa sœur aînée, devient alors un monde à part entière, où le désordre règne en maître. Mais les jeux du désir vont rattraper le frère et la sœur. Ces personnages, Cocteau les arc-boute contre les normes petites bourgeoises des années 20. L'oisiveté, le vol, les drogues, l'homosexualité, l'inceste. Les héros du roman cultivent la transgression. C'est peut-être pour cela que ce livre, malgré l'inspiration très personnelle de Cocteau, a tant marqué les jeunes gens de l'entre-deux-guerres. Dans leur sillage, découvrons ce soir le destin tragique de ces enfants terribles.
On joue aux boules de neige. Je lui en ai jeté une. Elle devait être très dure. Il l'a reçue en pleine poitrine. Il a fait « Oh, il est tombé comme ça ». J'ai d'abord cru qu'il saignait du nez à cause d'une autre boule de neige.
Une boule de neige ne défonce pas la poitrine.
Monsieur, il avait caché une pierre dans la neige.
Est-ce que ça ?
Nous voici quelques instants après la scène d'ouverture. À deux pas du collège, Paul, 14 ans, a été blessé par la boule de neige, qui en fait contenait une pierre, lancée par Dargelos, son idole. Son camarade Gérard s'offre de le raccompagner chez lui, rue Montmartre. Gérard, orphelin, timide, est fasciné par Paul et sa sœur. Leur père mort et leur mère alitée, les deux adolescents grandissent sans tuteur. Le chauffeur stoppa la voiture devant la porte. Chargé du cartable et de Paul qu'il maintenait par la taille, Gérard gravit les marches. Il s'arrêta au premier étage. Une vieille banquette de peluche verte éventrée montrait son crin et ses ressorts. Gérard y déposa son fardeau précieux, s'approcha de la porte et sonna. On entendit des pas, une halte, un silence. « Élisabeth ?» Le silence continuait. « Élisabeth !» chuchota Gérard avec force. « Ouvrez, c'est nous !» Une petite voix volontaire se fit entendre. « Je n'ouvrirai pas, vous me dégoûtez. J'en ai assez, les garçons. Vous n'êtes pas fous de revenir à des heures pareilles ?»« Lisbeth !» insista Gérard. « Ouvrez, ouvrez vite, Paul est malade !» La porte s'entr'ouvrit après une pause. La voix continua par la fente. « Malade ? C'est un truc pour que j'ouvre ? C'est vrai ce mensonge ? Paul est malade, dépêchez-vous, il grelotte sur la banquette !» La porte s'ouvrit toute grande. Une jeune fille de 16 ans parut. Elle ressemblait à Paul. Elle avait les mêmes yeux bleus ombrés de cils noirs, les mêmes joues pâles. 2 ans de plus accusaient certaines lignes, et sous sa chevelure courte, bouclée, la figure de la sœur, cessant d'être une ébauche, rendait celle du frère un peu molle, s'organisait, se hâtait en désordre vers la beauté. Du vestibule obscur, on vit d'abord surgir cette blancheur d'Élisabeth et la tache d'un tablier de cuisine trop long pour elle. La réalité de ce qu'elle croyait une fable l'empêcha de s'exclamer. Elle et Gérard soutinrent Paul qui trébuchait et laissait pendre sa tête. Dès le vestibule, Gérard voulut expliquer l'affaire. « Espèce d'idiot !» souffla Élisabeth. « Vous ne manquez jamais une gaffe. Vous ne pouvez pas parler sans crier. Vous voulez donc que maman entende ?» Ils traversèrent une salle à manger en contournant la table et entrèrent à droite dans la chambre des enfants. Cette chambre contenait 2 lits minuscules, une commode, une cheminée et 3 chaises. Entre les 2 lits, une porte ouvrait sur un cabinet de toilette cuisine. Le premier coup d'œil sur la chambre surprenait. Sans les lits, on l'eût prise pour un débarras. Des boîtes, du linge, des serviettes éponges jonchaient le sol. Une carpette montrait sa corde. Au milieu de la cheminée trônait un buste en plâtre sur lequel on avait ajouté à l'encre des yeux et des moustaches. Des punaises fixaient partout des pages de magazines, de journaux, de programmes, représentant des vedettes de films, des boxeurs, des assassins. Élisabeth se frayait une route à grands coups de pied dans les boîtes. Elle jurait. Ils étendirent enfin le malade sur un lit encombré de livres. Gérard raconta la bataille. « C'est trop fort !» s'écria Élisabeth. « Ces messieurs s'amusent avec des boules de neige pendant que je suis garde malade, pendant que je soigne ma mère infirme. »« Ma mère infirme !» cria-t-elle, contente de ces mots qui lui donnaient de l'importance. « Je soigne ma mère infirme et vous jouez aux boules de neige. C'est encore vous, je suis sûr, qui avez entraîné Paul, espèce d'idiot !» Gérard se taisait. Il connaissait le style passionnel du frère et de la sœur, leur vocabulaire de collégien, leur tension jamais relâchée. Pourtant, il restait timide et s'en affectait toujours un peu. « Qui soignera Paul ? C'est vous ou moi » continuait-elle. « Qu'est-ce que vous avez à rester là comme une bûche ? Ma petite Lisbeth, je ne suis ni Lisbeth ni votre petite, je vous prie d'être convenable. Du reste, une voix lointaine interrompit l'apostrophe. « Gérard, mon vieux, » disait Paul entre ses lèvres, « n'écoute pas cette sale typesse. » Elle nous embête. Élisabeth bondit sous l'insulte. « Typesse ? Eh bien, mes types, débrouillez-vous. Soigne-toi tout seul. C'est le comble. Un idiot qui ne supporte pas les boules de neige et je suis assez absurde pour me faire de la bile. Et maintenant, Gérard, sortez. Filez. »
« Maman, elle m'a giflé.
Il m'a craché dessus. »«
C'est pas vrai. »«
Ose le dire à maman que c'est pas vrai. Répète-le. »«
C'est pas vrai, c'est pas vrai. »«
Je le rate, ta fille. Je le rate. »
Le médecin de famille interdit à Paul de retourner au collège. Condamné au repos, Paul se désespère de ne plus voir Dargelos. Mais la vie s'organise. Élisabeth veille son frère sans relâche et Gérard s'invite chaque jour dans la chambre. Cet équilibre cesse brutalement quand la mère des enfants décède.
Qu'est-ce que tu as ?
Paul, arrive. Regarde. Je crois que maman est morte.
Maman.
Paul rechute et ne s'en remet que doucement, sous la vigie d'Elisabeth. Gérard imagine alors un subterfuge pour revoir ses amis. Il les invite en vacances. Hors de chez eux, le frère et la sœur développent une complicité ambiguë. Dès le premier soir à l'hôtel, la situation devint intenable. Elisabeth voulut profiter de la baignoire, Paul aussi. Leur rage froide, leur traîtrise, leurs portes claquées et rouvertes à l'improviste aboutirent à une baignade face à face. Cette baignade bouillante où Paul, flottant comme une algue, riant aux anges dans la vapeur, exaspérait Elisabeth, inaugura un régime de coups de pied. Les coups de pied continuèrent le lendemain à table. Au-dessus de la table, l'oncle ne recevait que des sourires. Au-dessous, se menait une guerre sournoise.
Ah, asseyez-vous, mes enfants. Pas de régime, non ?
J'aime tout.
Le menu. Et quand je pense qu'on m'avait dit que vous étiez très difficile.
Bientôt, le jeu s'amplifia. Le hall, la rue, la plage, les planches agrandirent son domaine. Elisabeth forçait Gérard à les seconder. La bande infernale se divisait, courait, rampait, s'accroupissait, souriait et grimaçait, semant la panique. Ce fléau n'eût point connu de bornes sans la découverte d'un autre plaisir. Ce plaisir était le vol. Gérard suivait, n'osant plus formuler ses craintes. Ses vols n'avaient que le vol pour mobile. Il ne s'y mêlait ni lucre ni goût du fruit défendu. Il suffisait de mourir de peur. Les enfants sortaient des magasins où ils entraient avec l'oncle, les poches pleines d'objets sans valeur et qui ne pouvaient servir à rien. La règle interdisait la prise d'objets utiles. Les vols, anneaux de tringle, tournevis, commutateurs, étiquettes, espadrilles pointure 40, s'entassaient à l'hôtel, espèce de trésor de voyage. Le fin fond de cette conduite d'enfant inculte, frais jusqu'au crime, incapable de discerner un bien et un mal, c'était chez Elisabeth un instinct qui la faisait redresser avec ses jeux de pirate, la pente vulgaire qu'elle redoutait pour Paul. Paul, traqué, épouvanté, grimaçant, courant, injuriant, ne riait plus aux anges. De retour à Paris, le trio dérive de plus belle. Leurs dépenses assurées par le médecin de famille et l'oncle de Gérard, Paul et Elisabeth sont libres de toute contrainte. La chambre retrouvée devient le théâtre de disputes grandioses dont Gérard est le témoin. Voyons comment se répartissent les rôles de ce huis clos vénéneux qui se répète chaque soir. Paul et Gérard se donnaient rendez-vous entre 11h et minuit à la terrasse d'une brasserie de Montmartre. Ils rentraient ensemble. Elisabeth guettait le choc sourd de la porte cochère, arpentait le vestibule de long en large, agonisait d'impatience. La porte cochère l'avertissait de quitter son poste. Elle courait à la chambre, s'asseyait et empoignait le polissoir. Il la trouvait assise, un filet à cheveux sur la tête, la langue un peu tirée, en train de polir ses ongles. Paul se dévêtait, Gérard retrouvait sa robe de chambre. On l'installait, on le calait, et le génie de la chambre frappait les trois coups. Aucun des protagonistes de ce théâtre, et même celui tenant l'emploi de spectateur, n'avait conscience de jouer un rôle. C'était à cette inconscience primitive que la pièce devait une jeunesse éternelle. Paul circulait tout nu, refaisait son lit, aplatissait le linge, construisait la guérite d'oreiller, disposait ses ingrédients sur une chaise. Elisabeth, sur le coude gauche, les lèvres minces, graves, regardait fixement son frère. De la main droite, elle se grattait la tête jusqu'à l'écorchure. Ensuite, elle graissait ses écorchures avec une crème qu'elle tirait d'un pot de pommade posé sur le traversin. « Idiote !» prononçait Paul. Et il ajoutait « Rien ne me dégoûte comme le spectacle de cette idiote et de sa crème. » Elle a lu dans un journal que les actrices américaines s'écorchaient et se passaient de la pommade. Elle croit que c'est bon pour le cuir chevelu. « Gérard !» « Quoi ?» « Tu m'écoutes ?»« Oui. »« Gérard, dormez donc, n'écoutez pas ce type. » Paul se mordait les lèvres, son œil flamboyait. Il y avait un silence. Enfin, sous le regard mouillé, fendu, sublime d'Elisabeth, il se couchait, se bordait, essayait des poses de nuque, n'hésitait pas à se relever et à rouvrir les draps lorsque l'intérieur du lit ne répondait pas exactement à son idéal de confort. Cet idéal, une fois atteint, aucune puissance ne l'aurait délogé de sa place. Il faisait plus que se coucher, il s'embaumait, il s'entourait de bandelettes, de nourriture, de bibelots sacrés, il allait chez les ombres. Elisabeth attendait l'installation qui décidait son entrée en scène et il semble incroyable que pendant 4 ans, ils aient pu jouer chaque nuit la pièce sans en dénouer d'avance les ficelles. Car, sauf quelques retouches, la pièce recommençait toujours. Les nuits de la chambre se prolongeaient jusqu'à 4 heures du matin. Cela reculait les réveils. Vers 11 heures, Mariette, la garde, apportait du café au lait. On le laissait refroidir. On se rendormait. Au 2e réveil, le café au lait froid manquait de charme. Au 3e réveil, on ne se levait plus. La journée pesait aux enfants. Ils la trouvaient vide. Un courant les entraînait vers la nuit, vers la chambre, où ils recommençaient à vivre.
N'ouvrez pas la bouche, Gérard, vous diriez des bêtises. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous apprendre. Tenez-vous.
Qu'est-ce qui se passe?
Pas les somnambules.
Oh!
Évidemment, vous allez le crier sur les toits.
Il a marché sur les toits?
Seriez-vous sourd? À cela vous manque.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Mes parents m'avaient dit de ne pas sortir du lit. Dès que tombe le jour, Morphée me joue des tours.
Rêve ou réalité? On peut être alité, c'est une drôle de posture pour vivre l'aventure.
Je vadrouille assoupi sur les toits de Paris, debout bien malgré moi, je traîne en pyjama.
Équilibre précaire, petit gars de gouttière, que me vaut l'infortune de flâner sous la lune.
C'est le slalom.
Au moindre somme, on déambule.
Somnambule, somnambule.
J'ai croisé vers minuit une belle endormie qui voulait prendre l'air les deux yeux grands ouverts.
J'ai voulu cet idiot lui glisser quelques mots, mais comment se parler lorsqu'on dort à moitié? Ceci n'est pas un rêve, car quand le jour se lève, je garde dans mon cou la trace de ses bisous.
J'attendrai aujourd'hui l'égérie de mes nuits que j'appelle tendrement ma belle au toit dormant. C'est le slalom des funambules.
Au moindre somme, on déambule. Somnambule, somnambule.
Viens ma douce bras tendu, princesse suspendue, je t'emmène danser entre les cheminées cette valse à 3 temps pour sujet somnolent dans le ciel du printemps.
Nous effectuerons câlin sous les regards félins, petits pas entre chats sur un air de Java, c'est l'hymne saut du lit de Montmartre à Passy, des amants endormis.
L'entrée en scène d'une nouvelle figure va bousculer l'équilibre du trio. Les enfants sont désormais de jeunes adultes, de 18 et 20 ans. Contre toute attente, Elisabeth décide soudain de travailler.
Du travail? Quel travail?
Tu comprends, Gérard. Paul est libre. Du reste, il est incapable. Il est nul, c'est un demeuré.
Charmante nature.
Il faut que j'en sorte toute seule, Gérard. Du reste, que deviendrait-il si je ne travaillais pas? Je travaillerai, je trouverai une place, il le faut.
Une place dans un massacre, à la poire.
Elle trouve une place de mannequin et se lie d'amitié avec Agathe, elle aussi orpheline. Introduite auprès de la troupe, la discrète Agathe ranime malgré lui les sentiments de Paul. Le mécanisme qui avait conduit Gérard de Paul à Élisabeth conduisit Agathe d'Élisabeth à Paul. Paul se sentit remué en présence d'Agathe. Fort peu apte à l'analyse, il catalogua l'orpheline parmi les choses agréables. Or, il venait, sans le savoir, de transporter sur Agathe les masses confuses de rêves qu'il accumulait sur d'Argelos. Il en eut la révélation foudroyante un soir que les jeunes filles visitaient la chambre. Agathe s'empara de la photo de d'Argelos que Paul conservait précieusement et s'écria « Vous avez ma photo ?» d'une voix si étrange que Paul souleva sa tête de son lit. « Ce n'est pas ta photo, » dit Élisabeth. « C'est vrai, le costume n'est pas pareil, mais c'est incroyable. Je la porterai, c'est exactement la même. C'est moi ! Qui est-ce ? Un garçon, ma vieille, c'est le type de Condorcet qui a frappé Paul avec une boule de neige. Il te ressemble, c'est exact. Paul, est-ce qu'Agathe lui ressemble ?» À peine évoquée, la ressemblance invisible qui n'attendait qu'un prétexte pour éclater, éclata. Gérard reconnut le profil funeste. Agathe, tournée vers Paul, brandissait la carte blanche et Paul, dans l'ombre pourpre, vit d'Argelos brandissant la neige et reçut le même coup de poing. Il laissa retomber sa tête. « Non, ma fille, » dit-il d'une voix éteinte, « c'est la photo qui ressemble. Vous, vous n'y ressemblez pas. » Ce mensonge inquiéta Gérard. La similitude crevait les yeux. De ce soir, il se tissa entre Paul et Agathe une étoffe de fils entrecroisés. Le fier d'Argelos qui blessait les cœurs d'un amour insoluble se métamorphosait en une jeune fille timide que Paul dominerait. Élisabeth avait rejeté la photo dans le tiroir. Le lendemain, elle la retrouva sur la cheminée. Elle fronça les sourcils. Elle ne souffla mot. Seulement sa tête travaillait. Cette découverte la jeta dans un trouble qu'elle ne précisait pas et qui l'étouffait. Puisque Paul trichait, elle tricherait de conserve. Elle se rapprocherait d'Agathe, négligerait Paul et n'avouerait aucune curiosité. Agathe, Gérard, partageait la chambre incorrecte qui prenait de plus en plus l'apparence d'un campement de bohémiens. Élisabeth proposa de loger Agathe dans l'ancienne chambre de leur mère. Agathe, aidée de Gérard, transporta quelques valises. Elle connaissait déjà les coutumes, les veilles, les sommeils, les discordes, les tornades, le café Charles et ses sandwichs. Paul voulut profiter vite de la revanche que lui ménageait le sort. Incapable de jouer au d'Argelos et d'imiter sa morgue, il usait de vieilles armes qui traînaient dans la chambre, c'est-à-dire qu'il tourmentait Agathe grossièrement. Élisabeth ripostait pour elle. Paul employait alors l'humble Agathe afin de blesser sa sœur par la bande. Quatre orphelins y trouvaient leur compte. Élisabeth qui découvrait un moyen de compliquer leur dialogue, Gérard qu'on laissait reprendre haleine, Agathe éblouie par l'insolence de Paul, et Paul lui-même, car l'insolence rend prestigieux. Agathe jouissait d'être victime parce qu'elle sentait cette chambre pleine d'une électricité d'amour dont les secousses les plus brutales demeuraient inoffensives et dont le parfum d'ozone vivifiait. Mais les sentiments, en s'intensifiant, mettent le quatuor en péril. À la grande surprise de son frère, Élisabeth se marie avec un riche jeune homme pragmatique, très différent d'elle. Le mariage semble signer la fin de la petite troupe, mais le génie de la chambre veille, nous dit Cocteau. Le marié se tue en voiture juste après la noce.
Sur la route, entre Cannes et Nice, Michael se tua. Regardez cette ruine de silence, avec une seule roue qui tourne, de moins en moins vite, comme une roue de loterie.
Les habitués de la rue Montmartre s'installent alors dans l'immense maison de la veuve Élisabeth. La troupe reformée, tout semble revenir à la normale. Pourtant, des désirs inavoués troublent l'harmonie du quatuor. Depuis le malaise des deux chambres, se sentant de trop et mettant la mauvaise humeur de Paul et d'Élisabeth sur le compte d'une atmosphère perdue, Agathe et Gérard sortaient souvent ensemble. Leur amitié profonde était celle des malades qui souffrent du même mal. Comme Gérard et Élisabeth, Agathe situait Paul plus haut que terre. Tous deux aimaient, ne se plaignaient pas et jamais n'eussent osé formuler leur amour. De la base, la tête levée, ils adoraient les idoles. Agathe, le jeune homme de neige, Gérard, la vierge de fer. Jamais à l'un ni à l'autre l'idée ne serait venue de croire qu'ils pussent obtenir, en échange de leur ferveur, autre chose que de la bienveillance. Ils trouvaient admirable qu'on les tolérât, tremblaient d'alourdir leur rêve fraternel et s'écartaient par délicatesse lorsqu'ils se croyaient en surcharge. Un soir, Elisabeth trouva Agathe en larmes, à plat ventre, la figure dans son oreiller. Elle dorlota la malheureuse, la berça, la confessa. « Je l'aime, je l'adore, il me méprise !» sanglotait Agathe. C'était donc de l'amour. Elisabeth sourit. « En voilà une petite folle !» s'écria-t-elle, comprenant qu'Agathe parlait de Gérard. « Je voudrais bien savoir de quel droit il te méprise. Est-ce qu'il te l'a dit ? Non, alors ?» Il en a une chance, cet imbécile. Si tu l'aimes, il faut que tu l'épouses. Il faut l'épouser. Agathe fondait, rassurée, anesthésiée par la simplicité de cette sœur, par l'inconcevable dénouement qu'Elisabeth proposait au lieu de se moquer d'elle. « Lise, » murmurait-elle contre l'épaule de son amie. « Lise, tu es bonne. Tu es si bonne. Mais il ne m'aime pas. Tu en es sûre ? C'est impossible. » Tu sais, Gérard, c'est un garçon timide. Et elle continuait, berçant, cajolant, l'épaule inondée, lorsqu'Agathe se redressa. Mais Lise, il ne s'agissait pas de Gérard. Je parle de Paul. Elisabeth se leva. Elisabeth, les yeux fixes, les mains pendantes, se sentait sombrer debout. Et elle regardait Agathe, voyant à la place de cette petite fille en larmes une sombre Athalie, une voleuse qui s'était introduite dans la maison. Elle voulait savoir. Elle se maîtrisa. Elle vint s'installer au bord du lit. « Paul ? C'est confondant. Jamais je ne me serais douté. » Elle prenait une voix gentille. « En voilà une surprise. C'est si drôle. C'est confondant. Raconte, raconte, vite !» Et de nouveau, elle enlaçait, berçait, apprivoisait les confidences, amenait par ruse à la lumière le troupeau de sentiments obscurs. Agathe séchait ses larmes, se mouchait, se laissait bercer, convaincre. Elle vidait son cœur et se livrait auprès d'Elisabeth à des aveux qu'elle n'eût jamais osé se formuler à elle-même. Elisabeth écoutait se peindre cet humble, ce sublime amour. Et la petite, qui parlait contre le cou et l'épaule de la sœur de Paul, aurait été stupéfaite de voir, au-dessus de la main machinale qui lui caressait les cheveux, un visage de juge impitoyable.
Paul.
Quoi encore ?
Paul, mon chéri.
Laisse-moi dormir.
Paul. Nous ne jouons plus jamais au jeu.
C'est bien ta faute.
Tiens. Je vais m'étendre et nous allons jouer au jeu.
Je me suis trop habituée à jouer seule.
Écoute.
Non.
Si, écoute. Il y a un grand temple qui est le temple de la destruction. 50 grands prêtres le dirigent. 4 pénètrent dans le Saint des Saints. 1000 et 1000 esclaves y travaillent. Et aucun d'eux n'a le droit de dire ce qu'il a vu.
Dévorée par la jalousie, Elisabeth engage alors une sombre machination. La jeune veuve découvre une lettre signée de Paul, destinée à Agathe. Ces deux-là, sans le savoir, s'aiment d'un amour réciproque. Incapable d'accepter la nouvelle, Elisabeth déroule la nuit même un plan terrible. Elisabeth, lourde, légère, volante, suivait les couloirs, la tête vide. Cette tête n'abritait que la rumeur vague et sa poitrine que les coups réguliers du bûcheron. Dès lors, la jeune femme ne devait plus s'interrompre. Le génie de la chambre se substituait à elle. Elle pénétra dans la chambre de Paul et développa sa thèse. Paul se taisait, buvait l'amertume de cette inconcevable révélation. Agathe était une petite fille simple et Gérard un brave garçon. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Il serait atroce, criminel, oui, criminel, de se mettre en travers, de susciter un drame, de troubler Agathe, de désespérer Gérard, d'empoisonner leur avenir. une heure, Élisabeth parla, plaida la cause juste. Elle s'exaltait, se prenait à la plaidoirie. Paul admettait, s'abandonnait entre ses mains. Il promit de se taire et de montrer bonne figure au jeune couple lorsqu'il lui apprendrait la nouvelle. Élisabeth sécha les larmes de Paul, l'embrassa, le borda et quitta la pièce. Il fallait poursuivre sa tâche. L'instinct savait en elle que les meurtriers frappent coup sur coup, ne peuvent pas reprendre haleine. Araignée nocturne, elle continuait sa course, traînant son fil, étoilant son piège de tous les côtés de la nuit, lourde, légère, infatigable. Elle trouva Gérard. Elle le fit asseoir, marcha de long en large et lui demanda ce qu'il comptait faire vis-à-vis d'Agathe. « Faire pourquoi ? » demanda-t-il. « Comment pourquoi ?» Et d'une voix sèche, impérieuse, elle lui demanda s'il se payait sa tête et s'il ne savait pas qu'Agathe l'aimait, espérait une demande en mariage, ne s'expliquait pas son silence. Gérard ouvrait des yeux stupides. Les bras lui tombaient. « Agathe ? » balbutiait-il. « Agathe ? » ?»« Oui, Agathe !» lança Élisabeth avec fougue. Et peu à peu, elle transformait la confiance de la jeune fille en amour, datait, prouvait, ébranlait Gérard d'une foule de preuves. « Allons, termina-t-elle, voilà du bon travail. Couche-toi, je vais chez Agathe lui annoncer la nouvelle. Tu l'aimes. La folie des grandeurs te grisait. Réveille-toi, félicite-toi, embrasse-moi et avoue que tu es l'homme le plus heureux du monde. » Gérard, éberlué, entraîné, avoua ce que commandait la jeune femme. Elle l'enferma et continua sa toile, monta chez Agathe. De toutes les victimes d'un meurtre, il arrive qu'une jeune fille offre le plus de résistance. Agathe chancelait sous les coups et ne cédait pas. Enfin, terrassée de fatigue, après une lutte éperdue où Élisabeth lui expliquait que Paul était incapable d'amour, qu'il ne l'aimait pas parce qu'il n'aimait personne, qu'il se détruisait lui-même et que ce monstre d'égoïsme causerait la perte d'une femme crédule, que par ailleurs Gérard était d'une âme d'élite, honnête, éprise, la jeune fille desserra l'étreinte qui l'accrochait à son rêve. « Merci, merci. Tu es bonne, octait la malheureuse. « Ne me remercie pas, dors !» dit Élisabeth, et elle quitta la chambre. L'oncle de Gérard se sentant fort malade, les fiançailles et le mariage se précipitèrent dans une bonne humeur factice, chacun jouant un rôle et rivalisant de générosité. Un silence mortel pesait en marge des cérémonies intimes où Paul, Gérard, Agathe, trop joyeux, accablaient Élisabeth. Elle avait beau penser, beau peser que sa démarche les sauvait d'un sinistre, que grâce à elle, Agathe ne serait pas victime du désordre de Paul, ni Paul de l'infériorité d'Agathe. Elle avait beau se répéter, Gérard et Agathe sont du même niveau. Ils se cherchaient à travers nous. Dans un an, ils auront un enfant, ils béniront les circonstances. Elle avait beau oublier les démarches de la nuit farouche, les prendre pour la mise en œuvre d'une sagesse protectrice, elle n'en sentait pas moins du trouble en face des malheureux et une crainte de les laisser tous les trois ensemble. Elle aimait ces malheureux-là. C'est par intérêt, par passion qu'elle en avait fait ses victimes. Elle les survolait, les aidait, les tirait malgré eux d'un embarras dont l'avenir leur fournirait la preuve. Cette dure besogne avait coûté cher à son cœur. Il le fallait. Il le fallait, ressassait Élisabeth, comme d'une dangereuse intervention chirurgicale. Le voyage de noces d'Agathe et Gérard laissa le frère et la sœur tête à tête. Paul dépérissait. Élisabeth le veillait, le soignait jour et nuit. Le médecin ne comprenait pas cette rechute d'un mal dont il ne reconnaissait pas les symptômes. La chambre en pagaille le consternait. Il aurait voulu remettre Paul dans une pièce confortable. Paul s'y opposa. Il vivait enveloppé de linges informes. Une étoffe rouge fixée sur la lampe colorait la face du malade, trompait Élisabeth, rassurait cette nature qui ne se nourrissait plus que de mensonges.
On y loue mon audace d'avoir peint l'inceste alors qu'il n'y a pas l'ombre d'inceste dans Les Enfants Terribles. Ce sont des êtres absolument purs, je l'explique dans le livre.
Jean Cocteau.
Ils vivent comme deux âmes dans une seule carapace. Ce sont des problèmes qui ne se posent pas pour eux. Malheureusement, ce sont des problèmes qui se posent pour presque tout le monde. Mais je n'y pensais pas. Pour moi, c'était si loin du sexe.
Dans un quotidien morne, une idole du passé ressurgit soudain. la malice d'Elisabeth a séparé le quatuor. Agathe et Gérard partent vivre un mariage de raison et les liens s'estompent entre les maisons. Une visite des jeunes mariés aux frères et sœurs bouscule pourtant ces vies résignées, car Gérard est porteur d'une mystérieuse offrande. Un matin, on allait se mettre à table. Devine qui j'ai rencontré. Gérard interpellait gaiement Paul qui ébaucha une moue interrogative. D'Argelos ? Non. Si, mon vieux, D'Argelos. Gérard traversait une rue. D'Argelos avait manqué de l'écraser en pilotant une petite voiture. Il s'était arrêté. Paul demanda s'il était changé. Pareil, un peu plus pâle. On jurerait un frère d'Agathe. Et il ne vous traitait plus de haut. Il était très, très aimable. Il faisait la navette entre l'Indochine et la France. Il représentait une marque de voiture. Il avait mené Gérard dans sa chambre d'hôtel et lui avait demandé s'il fréquentait Boule de Neige. Enfin, le type de la Boule de Neige. C'était Paul. Et alors ? Je lui ai répondu que je te voyais. Il m'a demandé, est-ce qu'il aime toujours le poison ? Le poison ? Agathe sursautait ahurie. Bien sûr, s'écria Paul, agressif. Le poison, c'est merveilleux. En classe, je rêvais d'avoir du poison. Il eût été exact de dire « D'Argelos rêvait de poison et je copiais D'Argelos. » Agathe demanda « Pourquoi faire ?»« Pour rien, » répondit Paul. « Pour en avoir, pour avoir du poison. C'est merveilleux. J'aimerais avoir du poison comme j'aimerais avoir un basilic, un mandragore, comme j'ai un revolver. C'est là, on sait que c'est là, on le regarde. C'est du poison, c'est merveilleux. » Elisabeth approuva. Elle approuva contre Agathe et par esprit de chambre. Elle aimait beaucoup le poison. Rue Montmartre, elle fabriquait de faux poisons, cachetait des fioles, collait des étiquettes macabres, inventait des noms ténébreux. Quelle horreur ! Gérard, ils sont fous. Vous finirez en cour d'assises. Cette révolte bourgeoise d'Agathe ravissait Elisabeth, illustrait l'attitude qu'elle prêtait au jeune ménage, annulant l'indélicatesse de l'avoir imaginée. Elle cligna de l'œil vers Paul. « D'Argelos, continua Gérard, m'a sorti des poisons de la Chine, de l'Inde, des Antilles, du Mexique, des poisons de flèche, des poisons de torture, des poisons de vengeance, des poisons de sacrifice. Il riait. Raconte à Boule de Neige que je n'ai pas changé depuis le bahut. Je voulais collectionner des poisons, je les collectionne. Tiens, porte-lui ce joujou. » Gérard tira de sa poche un petit paquet enveloppé dans un papier journal. Paul et sa sœur crevaient d'impatience. Agathe restait à l'autre bout de la pièce. Ils ouvrirent le journal. Il contenait, revêtu d'un de ces papiers de Chine qui se déchirent comme l'ouate, une boule sombre de la grosseur du poing. Une entaille montrait une plaie brillante, rougeâtre. Le reste était terreux, d'une manière de truffe, répandant tantôt un arôme de motte fraîche, tantôt une odeur puissante d'oignon et d'essence de géranium. Tous se taisaient. Cette boule imposait le silence. Elle fascinait et répugnait à la manière d'un nœud de serpent qu'on croit formé d'un seul reptile et où l'on découvre plusieurs têtes. Il émanait d'elle un prestige de mort.
Un ami dort, tes mains jonchant les draps étaient mes feuilles mortes. Mon automne aimait ton été. Le vent du souvenir faisait claquer les portes des lieux où nous avons été. Je te laissais mentir ton sommeil égoïste où le rêve efface tes pas. Tu crois être où tu es. Il est tellement triste d'être toujours où l'on n'est pas. Tu vivais enfoncé dans un autre toi-même et de ton corps si bien abstrait que tu semblais de pierre. Il est dur quand on aime de ne posséder qu'un portrait. Immobile, éveillé, je visitais les chambres où nous ne retournerons point. Ma course folle était sans remuer les membres, le menton posé sur mon poing. Lorsque je revenais de cette course inerte, je retrouvais avec ennui tes yeux fermés, ton souffle et ta main grande ouverte. Et ta bouche pleine de nuit. Que ne ressemblons-nous à cet aigle à deux têtes, à Janus au double profil, aux frères si à moi qu'on montre dans les fêtes, aux livres cousus par un fil. L'amour fait des amants un seul monstre de joie, hérissé de crises et de craintes. Et ce monstre, enivré d'être sa propre proie, se dévore avec quatre mains. Quelle est de l'amitié la longue solitude? Où se dirigent les amis? Quel est ce labyrinthe où notre morne étude est de nous rejoindre endormis? Mais qu'est-ce que j'ai donc? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dors. Ne pas dormir m'est dû. À moins que si je dors, je n'aille à la dérive dans le rêve où je t'ai perdu.
Le cadeau maléfique, bien sûr, précipite le drame. La neige tombe de nouveau sur Paris, comme au début du roman. Incapable d'accepter le mariage de Gérard et d'Agathe, Paul se laisse tenter par la boule sombre de Dargelos aux effets funestes. Son geste tragique va faire éclater la vérité. Mais est-il encore temps? Ce dimanche-là, il neigeait. Sur l'ordre du médecin Elisabeth, rideau tiré se reposait dans sa chambre. Il était 5 heures et Paul somnolait depuis midi. Il avait supplié sa sœur de le laisser seul, de remonter chez elle, d'obéir au médecin. Elisabeth dormait et faisait ce rêve. Paul était mort. Elisabeth se retrouva inondée de transpiration, hagarde, assise sur son lit. Une sonnette carillonnait. Sous l'influence du cauchemar, elle descendit les étages. Une rafale blanche jeta dans le vestibule Agathe échevelée, criant « Et Paul ?» Elisabeth se retrouvait, se décollait du rêve. « Quoi, Paul ? » dit-elle. « Qu'est-ce que tu as ? Il voulait rester seul. Je suppose qu'il dort, comme d'habitude. » « Vite, vite !» haletait la visiteuse. « Courons. Il m'a écrit qu'il s'empoisonnait, que j'arriverai trop tard, qu'il t'éloignera de sa chambre. » Agathe bousculait Elisabeth pétrifiée, se demandant si elle dormait encore, si c'était la suite de son rêve. Enfin, les deux jeunes femmes coururent. À peine entrées, on découvrait le désastre. Un arôme funèbre, cet arôme noir, rougeâtre de truffes, d'oignons, de géranium que reconnaissaient les jeunes femmes, emplissait la chambre et gagnait la galerie. Paul gisait, portant le même peignoir éponge que sa sœur, les prunelles dilatées, la tête méconnaissable. L'éclairage neigeux bougeait les places d'ombre sur un masque livide où le nez et les pommettes accrochaient seuls la lumière. Sur la chaise, le reste de la boule de poison, une carafe, la photographie de Dargelos voisinait pêle-mêle. Les jeunes femmes furent d'abord interdites. Il fallait admettre, accepter l'impossible, identifier un Paul inconnu. Agathe se précipita, s'agenouilla, constata qu'il respirait. Elle entrevit un espoir. « Lise, supplia-t-elle, ne reste pas immobile, rhabille-toi. Il est possible que cette chose atroce soit une drogue inoffensive. Cherche le thermos, vite, vite ! Il respire, il est glacé, il faut qu'il boive du café bouillant. » Elisabeth s'étonnait de la présence d'esprit d'Agathe. Comment pouvait-elle toucher Paul, parler, se démener ? Comment opposait-elle des forces raisonnables à cette fatalité de neige et de mort? Brusquement, elle se secoua et partit chercher les bouteilles thermos dans sa chambre. Paul respirait. Après 4 heures de phénomènes qui lui firent se demander si ce poison était une drogue et si cette drogue à dose massive suffirait à le tuer, il dépassait les stades angoissants. Il flottait, retrouvait presque son vieux bien-être. Une faiblesse de syncope ressuscitait l'ancienne neige, la voiture, le jeu, lorsque Gérard le ramenait rue Montmartre. Agathe sanglotait. « Paul, Paul, regarde-moi, parle-moi. »« Boire, » prononça-t-il. Agathe lui mouillait les lèvres. Elle le suppliait de parler, d'expliquer sa folie et la lettre qu'elle tirait de son sac et lui montrait. « C'est ta faute, Agathe. »«
Ma faute ?»
Alors Paul s'expliqua, détachant les syllabes, chuchotant, déballant toute la vérité. Agathe l'interrompait, s'exclamait, se justifiait. Le piège ouvert étalait ses tortueuses machines. Le moribond et la jeune femme le touchaient, le retournaient, déboîtaient un à un les rouages du mécanisme infernal. Une Elisabeth criminelle surgissait de leur dialogue. L'Elisabeth de la nuit des visites, la fourbe, l'opiniâtre Élisabeth. Il venait de comprendre son œuvre. Et Agathe s'écriait « Il faut vivre !» Et Paul gémissait « Il est trop tard !» Lorsqu'Élisabeth, talonnée par la crainte de les laisser longtemps seuls, revint avec la bouillotte et le thermos. Voici Paul à l'agonie, au cœur d'une lutte entre l'amour d'Agathe et la folie de sa sœur. Retrouvant Paul et Agathe, Élisabeth comprend qu'elle est démasquée, mais elle ne s'avoue pas vaincue. Découvrons le dénouement que nous réserve Cocteau comme un tragique écho à la première scène du roman. Sale monstre ! Paul râlait, fusillait Élisabeth d'un regard bleu, d'un feu bleu ininterrompu. Des crampes, des tics torturaient sa belle bouche. La neige fouettait les vitrages. Élisabeth recula. « Eh bien oui, dit-elle, c'est vrai. J'étais jalouse. Je ne voulais pas te perdre. Je déteste Agathe. Je ne permettrai pas qu'elle t'enlève de la maison. » L'aveu la grandissait, la drapait, lui arrachait son costume de ruse. Les boucles rejetées en arrière par la tourmente dénudaient le petit front féroce et le faisaient vaste, architectural au-dessus des yeux liquides. Seule contre tous avec la chambre, elle bravait Agathe, elle bravait Gérard, elle bravait Paul, elle bravait le monde entier. Elle saisit le revolver sur la commode. Agathe hurlait. « Elle va tirer, elle va me tuer !» et se cramponnait à Paul qui divaguait. Mais Agathe effarée voyait soudain cette chose soudaine, une démente qui se disloque, s'approche de la glace, grimaçant, s'arrachant les cheveux, louchant, tirant la langue. Car n'en pouvant plus, Élisabeth exprimait sa folie en une pantomime grotesque, essayait de rendre la vie impossible par un excès de ridicule, de reculer les bornes du vivable. « Elle devient folle ! Au secours !» continuait de crier Agathe. Ce mot de folle détourna Élisabeth de la glace, dompta son paroxysme. Elle se calma. Elle savait que la chambre glissait vers sa fin sur une pente vertigineuse. Mais cette fin traînait et il faudrait la vivre. Le moribond s'exténuait. Il se tendait du côté d'Élisabeth, du côté de la neige, du jeu, de la chambre de leur enfance. Élisabeth, comme une amoureuse, retarde son plaisir pour attendre celui de l'autre. Le doigt sur la gâchette, attendait le spasme mortel de son frère, lui criait de la rejoindre, l'appelait par son nom, guettant la minute splendide où ils s'appartiennent dans la mort. Paul, épuisé, laissa rouler sa tête. Élisabeth crut que c'était la fin, appuya le canon du revolver contre sa tempe et tira. Sa chute entraîna un des paravents qui s'abattit sous elle, avec un tintamarre effroyable découvrant la lueur pâle des vitres de neige. Tandis qu'Agathe, morte d'épouvante, se taisait et regardait saigner le cadavre d'Élisabeth, Paul distinguait, dehors, s'écrasant parmi les rigoles de givre et de glace fondue, les nez, les joues, les mains rouges de la bataille des boules de neige. Il reconnaissait les figures, les pèlerines, les cache-cols de laine. Il cherchait d'Argelos. Paul, Paul, au secours! Agathe grelotte, se penche, les yeux de Paul s'éteignent, le fil se casse, et il ne reste de la chambre envolée que l'odeur infecte et qu'une petite dame sur un refuge qui rapetisse, qui s'éloigne, qui disparaît.
Mon œuvre me ressemble davantage que l'image que vous voyez dans ce moment-ci devant vous. Et si mon œuvre est valable, je voudrais qu'on écrive sur ma tombe « Je débute ».
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Alain Joubert à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Léla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.